Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Mercredi 22 juin 2022, bienvenue à Cube Radio, Alexandre Moranville-Ouellet avec vous aujourd'hui. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en dedans, très loin des longues files pour attendre votre passeport. Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Hier, la ministre responsable du dossier, là, Karina Gould, qui a promis de mettre en place là, un nouveau système qui va permettre aux voyageurs d'obtenir des billets, de revenir à un rendez-vous précis pour pas passer des heures en file. Mais pour l'instant, il continue d'y avoir foule devant les bureaux de passeport. Et pendant ce temps-là, ben, les voyageurs qui l'ont, leur passeport, qui se sont rendus à l'aéroport, eh bien, il y en a plusieurs qui ont été, encore une fois, déçus parce qu'à l'aéroport de Montréal, hier, la presque totalité des avions qui devaient décoller en 18h et 22h ont eu des heures de retard, 2 heures en moyenne, tout ça à cause d'un problème de gestion des bagages. Donc, si vous voulez vraiment le partir en voyage en ce moment, bien, il y en a des embûches sur votre chemin. Attachez votre tuque avec de la broche. Sondage léger également aujourd'hui, la CAQ qui perd 5% d'appui environ, qui sont disséminés parmi les autres oppositions. On aura l'occasion d'y revenir avec nos chroniqueurs plus tard à l'émission. Hier également, la Commission canadienne du lait a approuvé une deuxième hausse du prix cette année. C'est assez rare, hein? C'est une société d'État, celle-là, qui supervise habituellement le système de gestion de l'offre des produits laitiers du Canada. Et là, ça a augmenté. C'est une deuxième augmentation. Et elles ont dit qu'elles réviseraient aussi les prix à l'automne. Donc, ça pourrait encore augmenter. Pour en parler avec nous, Sylvain Charlebois, économiste et professeur titulaire de la Faculté en management et en agriculture de l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est une nouvelle à laquelle vous vous attendiez? Là, je pense que le milieu complet attendait cette nouvelle-là. Et cette hausse-là, est-ce que c'est plus gros, plus petit que ce que vous anticipiez?
J'ai été un peu surpris. Franchement, je m'attendais à une hausse beaucoup plus importante.
Plus grosse, hein?
En fait, la plupart des analystes s'attendaient à une hausse qui dépassait, qui était pour dépasser 7 %. Alors, ce 2,5%, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde parce qu'à partir du mois de septembre, le lait, les produits laitiers vont être malheureusement plus chers. Là.
Oui, ça va augmenter.
Mais en gros, on s'attendait à pire que ça. Là.
Oui, parce que c'était plus gros là en février dernier, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était 6 cents le litre l'augmentation là, par rapport aux 2 cents qu'on augmente en ce moment. C'était 8,4%, c'était beaucoup plus. Mais là, lorsqu'on va arriver à l'automne, il n'y a pas seulement l'inflation là, qui rentre en ligne de compte. Il y a toutes sortes de facteurs, je pense, qui expliquent qu'on augmente les prix. Entre autres, dans l'Ouest canadien, il y a une saison de misère, hein, si je m'abuse, pour les producteurs laitiers.
Oui, absolument. Ben, dans l'Ouest, les prix ont augmenté. Mais en gros, les fermes laitières dans l'Ouest sont plus compétitives. Le coût de production sont moins élevés que dans l'Est. À l'Est de Toronto, comme dans l'Est de l'Ontario, au Québec et dans l'Atlantique, là, les fermes sont plus petites. Alors, le 2,5%, moi, j'ai l'impression que le 2,5% va être moins bien reçu dans l'Est du pays que dans l'Ouest. Parce que là, on parle d'une augmentation qui dépasse 10% cette année seulement. Là. C'est la deuxième augmentation en quelques mois, là.
Ouais, est-ce que vous excluez... Il y a eu
2,4% en février, qui était un record.
Ouais,
alors, c'est pour ça que les producteurs agricoles, les producteurs laitiers ont eu une augmentation de salaire qui dépasse le 10% en une seule année, là.
Ouais, est-ce que vous attendez à ce qu'il y en ait une troisième augmentation comme ça d'ici la fin de l'année?
Non, pas du tout. C'est jamais arrivé, je pense pas que ça va arriver. On travaille déjà... pour le mois de février 2023, on annonce, on a jusqu'au 1er novembre de cette année pour annoncer une augmentation pour le mois de février. Puis moi, j'ai l'impression qu'on va aller de l'avant avec une autre augmentation. Alors, c'est pas fini, là. C'est Les prix vont augmenter dans la section laitière de l'épicerie, puis j'ai l'impression que ça va continuer à augmenter en 2023 aussi.
Oui, parce que ça va continuer à augmenter, il faut comprendre, c'est pas seulement là, la Commission canadienne du lait au final qui va avoir là, son mot à dire sur cette augmentation de prix-là. Il y a également là, tous les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement qui peuvent expliquer un peu cette hausse de prix-là, de ce que je comprends.
Oui, non, c'est ça. Au Québec, là, particulièrement, il y a la Régie du marché agricole qui a son mot à dire là, pour ce qui est des prix, parce que les prix au Québec sont réglementés au détail. Hein. Mm. C'est la Régie qui va décider. Moi, j'ai l'impression qu'on va appliquer l'augmentation. Donc, le prix du lait va augmenter. Mais ce qui est intéressant actuellement cette année, là, c'est que pour la première fois, les produits alternatifs, là, comme le lait à base d'avoine, le lait à base de soya, tous les produits qu'on voit de plus en plus à l'épicerie sont rendus moins chers que le lait.
Ouais, mais moi-même, je consomme très peu de lait de vache, en fait. Moi aussi, je suis un vendu de lait de soya et autres substituts comme ça. Ouais, c'est vrai que j'imagine que ça joue quand même là, dans cette offre-là.
Ah oui, ce qui est inquiétant dans le contexte inflationniste dans lequel on vit actuellement, c'est que les consommateurs pourraient décider de bouder carrément les produits laitiers parce qu'ils vont être carrément trop chers. Ils vont peut-être opter pour d'autres produits à base de protéines végétales qui sont maintenant rendus majoritairement moins chers.
Oui, ça pourrait s'avérer être double tranchant là, pour les producteurs laitiers qui, oui, ont des problèmes, là, sécheresse, inondation dans l'Ouest, inflation, qui ont besoin d'augmenter leur prix, mais en même temps, si c'est trop cher, c'est vrai que ça pourrait se retourner contre eux. Là, après le lait, c'est la prochaine question que les gens vont se demander, qu'est-ce qui risque d'augmenter en prochain sur la liste? Le panier d'épicerie monte en fou. Le lait, règle générale, c'est un produit, justement, c'est comme qui est réglementé, reste un prix relativement stable. C'est quoi les prochains produits, là, selon vous, sur la liste là, des grosses augmentations à venir?
Le Statistique Canada vient de publier son rapport sur l'inflation là il y a à peine une heure là, fait que je suis en train de lire ça pendant que je vous parle.
7,7% au mois de mai, plus grosse hausse depuis 1983, c'est assez.
Ouais, mais le taux d'inflation alimentaire est à 9,7%, 2% de plus. Fait que là encore une fois pour le mois de mai là, le taux d'inflation alimentaire dépasse le taux d'inflation général de l'économie. Alors, si on parle de prix relatifs, là, à l'épicerie, ça coûte plus cher qu'ailleurs. Là. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui remarquent les prix élevés. Puis c'est partout en magasin. Il n'y a pas une section qui est protégée de ce qui se passe. Là.
Bon, bien, on va falloir continuer de payer de plus en plus cher pour notre panier en espérant là, que les tours de vis là, de la Banque centrale et les autres mesures là, qui sont prises vont réussir à freiner cette inflation-là, autant là, en général qu'au prix du panier d'épicerie. Professeur Charlebois, économiste, professeur titulaire de la Faculté de management en agriculture de l'Université Dalhousie, merci beaucoup d'avoir été là.
Au revoir.
C'est l'heure de la chronique sportive avec Mathieu Boulay, mon collègue journaliste sportif au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Mathieu.
Hey, salut Alexandre.
Alors, ça se poursuit ce soir, la résurrection du Lightning de Tampa Bay qui sont revenus dans le dernier match. La série est menée 2-1 par l'Avalanche, mais comme on l'a vu dans la série contre les Rangers, le Lightning est capable là, de changer littéralement le momentum pour se reprendre. Ce soir, ça se passe encore une fois de leur côté à Tampa Bay. À quoi tu t'attends pour ce match-là ce soir, Mathieu?
Premièrement, avant même que je commence l'analyse, je te dirais de préparer ta chanson de l'Undertaker pour demain matin.
Bam, bam. C'est bon, on va le faire.
Je te dirais que qu'est-ce qui est vraiment remarquable chez le Lightning, c'est la qualité des vétérans, la qualité des leaders de cette équipe-là. Steven Stamkos est un leader de haut niveau. Lors du premier match, il a été vraiment, à Tampa Bay, je veux dire, a été vraiment le meilleur joueur sur la patinoire. Et avec ses coéquipiers, Palat et Kucherov, ont vraiment pris les choses en main, ces trois joueurs-là. Là, est-ce que Kucherov va être à 100% ce soir? J'en doute, parce que ça va l'air d'être assez souffrant. Peut-être qu'il s'est tiré des muscles à un genou dans le genou, un ligament peut-être dans le genou. Je sais pas, mais je pense que ce soir, on va assister à quelque chose de... Encore une fois, le gardien de but, je reviens avec ça, André Vasilevski, lors du dernier match, s'est relevé. Et là, ils ont réveillé l'ours. L'Avalanche a réveillé Vasilevski. Et ça, là, la gifle qu'il a mangé de 7-0 la fin de semaine passée, là, je pense que Vasilevski va se relever. Et encore une fois, et il va être très solide ce soir. Et de l'autre côté, et là, qu'est-ce que je pensais qu'elle arrivait, est en train d'arriver? Jared Bednar, l'entraîneur-chef de l'Avalanche du Colorado, va envoyer devant le filet de son équipe. Francouz, qui a fait très bien en relève à Darcy Kemper quand Kemper était blessé lors des rondes précédentes. Ou tu reviens avec Darcy Kemper qui t'a amené là lors de la saison régulière et qui a été vraiment très solide. Sauf que Kemper, lors du dernier match, là, ça a pas bien été. Et là, comment tu réagis comme entraîneur? Est-ce que tu décides de reposer ton vétéran? Je pense pas que c'est le bon message à envoyer. Moi, je pense que Jared Bednar, ce soir, va envoyer Darcy Kemper parce que le gars, il a de l'expérience et les joueurs devant lui ont confiance en lui. Donc, je pense que ce soir, ça va être super intéressant. Et il faut vraiment que si le Lightning marque tôt dans le match, et prennent une avance confortable, tu pourrais avoir un autre changement de gardien de but ce soir, où ce que Pavel Francouz pourrait voir de l'action. Et là, après ça, on équilibre les choses à deux victoires partout, et là, on retourne à Denver. Faudrait, si l'Avalanche veut l'emporter ce soir, faut vraiment qu'ils mettent la défensive et Vasilevski sur les talons très tôt dans le match. Il faut que Vasilevski soit vacillant. Et je pense aussi que l'Avalanche doit retrouver sa vitesse de croisière qu'il avait à Denver. Donc, je te dis, Alexandre, ça va être super intéressant comme match parce que ça peut, comme dirait l'autre, ça peut aller d'un bord comme de l'autre.
Ça peut être le point pivot de la série.
Le Lightning est en train de revenir à cette série-là, comme je le prévoyais, parce que le Lightning, les champions, c'est comme les champions du monde de boxe. Tu peux pas pour gagner contre des champions en titre, il faut que tu en fasses toujours plus. Ouais. Alors, l'Avalanche va falloir qu'ils mettent le bord de travail ce soir, puis il faudra qu'ils reviennent à leur recette des deux premiers matchs.
Hier, il n'y avait pas de match de la finale de la Coupe Stanley, mais il y a quand même des matchs d'une autre Coupe, la Coupe Memorial. Et hier, c'était le match des Cataractes de Shawinigan contre les Oil Kings. Et ils ont gagné 4-3. Mais toi, tu surveillais, là, outre la performance des Cataractes, celle de Caden Goulet, qui joue avec les Oil Kings et qui est un espoir là, assez important du Canadien.
Dans un premier temps, superbe victoire de 4-3 des Cataractes de Shawinigan contre les Oil Kings d'Edmonton, les champions de l'Ouest. Les Cataractes ne cessent de me surprendre. Ils ont une résilience, là, Alexandre, là, comme j'ai rarement vu dans une équipe junior. Habituellement, là, les équipes québécoises dans le passé, avaient souvent un complexe d'infériorité envers les équipes de l'Ouest. Mais ça, là, c'est vraiment aux poubelles pour de bon. Hier, les Cataractes l'ont emporté 4-3 et ils perdaient 3-2 après 40 minutes de jeu. Ils se sont retroussés les manches en troisième période. Ils ont vraiment dominé la troisième période. Ils ont marqué deux buts rapides en début du troisième 20. Et là, ils l'ont emporté beaucoup de bons joueurs dans cette équipe-là, mais surtout beaucoup de caractère. Ils auraient pu s'écraser à 3-2 quand ils ont vu les Hurricanes marquer. Ils se sont plutôt relevés. Pour revenir au sujet de départ, Caden Goulet, j'avais hâte de le voir en action parce que des fois, dans les grands moments, dans les moments importants, dans les moments comme le tournoi de la Coupe Memorial, tu peux avoir une idée un peu du caractère et un peu de comment qu'il est sous pression parce que la pression est forte, là. T'es les quatre meilleures équipes juniors au Canada. Tout le monde veut gagner. C'est un moment de grande importance, un peu comme le championnat mondial de hockey junior. Ouais. Là, c'est les meilleurs au monde, mais quand même, Caden Goulet était le joueur par excellence des Oil Kings et de la Ligue de l'Ouest lors des dernières séries éliminatoires.
Ouais.
Caden Goulet, moi j'ai une très belle impression de sa part, très calme, très posé avec la rondelle. Sans la rondelle, il panique pas non plus. Comme je pense qu'il peut arriver, c'est que l'année prochaine, il va sûrement faire le saut dans l'initiale de hockey. Mais moi, ben honnêtement, j'aimerais beaucoup que Caden Goulet joue une saison complète dans la Ligue américaine pour établir un peu son style professionnel parce que junior et professionnel, tu joues pas de la même manière. Et là, tu t'affrontes des hommes, t'affrontes plus des ados, là. C'est vraiment une autre affaire. Puis je pense qu'un stage de plusieurs matchs, ben plusieurs matchs, sûrement dans, je dirais, dans la Ligue américaine avec Jean-François Houle, ça ferait pas de mal après Kevin Goulet. Puis on le sait que le développement d'un défenseur est toujours plus long qu'un et un gardien de but aussi. C'est tout le temps plus long qu'un attaquant. Il y a plus de choses à assimiler que ça. Puis avec Kelly Bob Burger, avec le Rocket de Laval, je pense que ce serait une très bonne avenue pour le jeune Goulet. Ouais. Mais moi, hier, j'ai une très bonne impression. Je lui donne une note de 8.5 sur 10, mettons.
Ouais, bon, mais c'est une bonne nouvelle quand même, surtout qu'on sait qu'on va... on a quand même encore des gros trous à Montréal sur la ligne défensive. En plus, tu le dis, voir comme un futur joueur du Canadien de Montréal fait sous la pression... C'est assez important parce que le marché à Montréal, ce n'est que ça, de la pression, là, qu'on le veuille ou non, malgré la bonne volonté des partisans, ça finit toujours par être le rouleau compresseur pour les nouveaux joueurs qui débarquent à Montréal, particulièrement quand ils sont jeunes. Puis en plus, s'ils évoluent avec le Rocket de Laval, ben là, l'équipe est compétitive. Ils ont eu tout un parcours en série. Sont beaux à voir, le Rocket. Fait que ça pourrait, en plus de ça, être une belle occasion pour lui d'aller prendre de la confiance en gagnant un peu, là.
Oui, tout à fait. Puis j'ai un exemple, c'est qu'en bas aussi avec les Rockets de Laval, ils ont des bons vétérans pour encadrer Goulet. T'as un Xavier Ouellet en arrière, t'as Louis Belpedio, je sais pas s'il va être de retour l'année prochaine, mais un gars comme Xavier Ouellet, s'il revient avec le Rocket, c'est un mentor de premier ordre. Lui, il a fait ses classes, il a joué dans l'organisation des Red Wings de Détroit quand il était plus jeune. Il avait été repêché de première ronde lui aussi. Il avait été un très haut choix de repêchage. Mais Xavier Ouellet pourrait être un mentor de premier ordre pour Kaelin Goulet, pour qu'il ferait ses classes chez les professionnels. Et comme tu dis, on a eu un parfait exemple de pression sur les épaules d'un jeune joueur avec Kaelin Primeau l'année dernière. Tu te souviens, Kaelin Primeau,
ouais.
Le monde avait comme perdu espoir en l'espace de 3-4 semaines. Ça a été une catastrophe à Montréal.
Ben oui, puis il jouait avec une équipe démoralisée devant lui. Il n'y avait pas de chance, là, vraiment. Là, c'était,
exact, ça n'a pas été facile. Mais
avec le Rocket.
Oui, exact. Mais avec le Rocket, il s'est relevé, le jeune. Moi, là, j'ai parlé à Kaelin Primeau, puis il m'a dit, j'ai rien changé. J'ai rien changé dans mes deux oreilles, dans ma technique, rien. J'ai seulement fait arrêter les rondelles, puis commencer d'arrêter de me casser la tête avec les 198 détails.
Ouais.
Il a juste joué comme il était capable de jouer avec le Rocket, et je pense que, c'est une leçon que le Canadien doit retenir.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Kaelin Primeau?
De gestion
de
joueurs.
Ne pas aller trop vite dans le développement de certains jeunes joueurs.
Ouais, absolument. Écoute, en terminant rapidement, Mathieu, il y a un beau don qui a été effectué, de la belle philanthropie ici à Montréal. 25 000 $ qui ont été donnés à la Cité de la Santé et par nul autre qu'un Québécois qui est extrêmement connu dans la Ligue nationale de hockey maintenant, Jonathan Huberdeau.
Oui, je salue. Et j'applaudis le geste de Jonathan Huberdeau hier. 25 000 $ qu'il donne au Centre de cancérologie de la Cité de la Santé de Laval. Je te dirais que ça me touche aussi personnellement, Alexandre, parce que mon beau-père est décédé du cancer v'là 5 ans maintenant. Mm. Et il a côtoyé, il a été à ce centre de cancérologie-là et j'ai été témoin d'un peu de toutes les bonnes actions qui s'effectuent là avec l'encadrement des personnes qui ont le cancer et ainsi de suite. L'argent qui va être investi là-dedans va donner un coup de main, c'est sûr, à la recherche ou à faire des installations encore supérieures à ce qu'ils ont présentement. Et comme je dis tout le temps, le 25 000 $ là, même s'il est multimillionnaire, Jonathan Huberdeau, lui, sa mère a été malade à deux reprises. Il était pas obligé de donner le 25 000 $ mais il l'a fait. Il faut lever son notre chapeau. Puis même si t'es millionnaire, mettons, Alexandre, notre généreux salaire. Mais en 10 minutes, tu donnes, mettons, je sais pas, 10% de ton salaire à une bonne cause.
Ouais.
On le ferait pas, mais lui, il le fait, puis c'est pas fini, là. Il donne 25 000 $ et il va participer également à un tournoi de golf caritatif le 11 juillet prochain, pour ramasser encore plus de sous, pour la Fondation de la Cité de la Santé. Fait que bravo à Jonathan Huberdeau. Et ça vaut vraiment une saison de 50 buts et même plus pour les gens de cette fondation-là.
Oui, tout à fait. On le remercie aussi des fois. Là, il joue pas ici, hein. On se rappellera, il joue avec les Panthers de la Floride. Parfois, là, c'est facile d'oublier d'où on vient. Puis c'est pas le cas du tout de Jonathan Huberdeau là, qui revient ici là, pour redonner là, à sa province, à sa communauté. Un gros merci, Mathieu Boulay. On s'en reparle demain.
À demain. Salut.
Salut.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346. Cube radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Mes collègues Julia Pagé et Rémi Villemur sont avec moi pour notre petite revue de l'actualité. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Salut.
Alors, premièrement, ça s'est paru dans le journal ce matin, le sondage léger sur les intentions de vote, hein, un sondage qui va revenir à peu près là toutes les semaines, tous les mois, d'ici à ce que les élections se fassent. Premier point d'ordre du jour dans ce sondage-là, François Legault, la CAQ, qui perd 5 % un ressac là, qui est divisé un peu partout sur les autres oppositions. Vous voyez ça comment? Une volonté québécoise là, peut-être d'avoir des oppositions fortes à l'Assemblée nationale?
Moi non, je pense pas. Je pense que l'appui à la CAQ là, qui baisse de 5%, c'est pas quelque chose de vraiment, vraiment inquiétant. D'ailleurs, les pertes se répandent dans presque tous les partis, sauf les libéraux. Ça veut dire qu'il y a rien de vraiment inquiétant pour le moment. Il y a aucun parti qui réussit à mobiliser les électeurs de la CAQ. Donc, il y a un petit blues un peu normal là, qui se manifeste, mais qui est pas concrètement menaçant pour la CAQ.
Ton côté, Julia, toi, comment tu vois, là, il y a des pourcentages qui sont gagnés partout, comme le dit Rémi, sauf du côté du Parti libéral. Par contre, là, côté francophone, c'est encore 50% des gens qui appuient la CAQ.
Oui, moi, ce que je retiens, c'est que la CAQ, c'est encore fort, c'est même très fort. C'est quand même le double des intentions de vote que du PQ. Donc, c'est vraiment quelque chose. Moi, ce que j'ai regardé, c'est du M, pas mal, qui a fait des bons scores, surtout à Québec. Après ça, je suis assez curieuse de voir si ça va se traduire aux urnes. Ils ont des partisans, un peu imprévisibles par moment, puis ils ont focusé beaucoup sur les enjeux pandémiques. Donc, je ne sais pas s'ils vont être capables de garder le momentum jusqu'au jour du scrutin, mais moi, ce que je retiens, c'est que Legault n'est pas prêt de perdre des appuis. Du moins, ce ne sera pas une perte assez importante pour pas qu'il gagne haut la main.
Oui, puis après ça, il y a d'autres données qui ressortent de ça, parce que du côté du PQ, on remonte un peu, puis même que le Parti québécois, quand on parle des questions identitaires, souveraineté et autres, on voit qu'il y a un intérêt. Parce que d'un côté, du côté de la CAQ, c'est 43% des électeurs qui voteraient oui à un référendum pour la souveraineté demain matin, 42%, là, 1% de moins, qui voteraient contre. Et tout ça, là, c'est plus que chez Québec solidaire, qui est un parti là, ouvertement indépendantiste. C'est 39% seulement de leurs électeurs qui appuieraient un mouvement de souveraineté. Est-ce qu'on se dirige là, à long terme? Là, je sais que c'est une question qui revient souvent, mais est-ce qu'à long terme, on peut voir peut-être une crise interne là, à la CAQ sur la question de la souveraineté, Rémi?
Ben, absolument. Puis il va y avoir une crise interne chez QS aussi, parce que tu viens de le dire, c'est un parti qui est ouvertement indépendantiste, sauf que moi, je suis allé voir ce matin leur plateforme électorale. Puis l'indépendance du Québec arrive désormais à la page 91. Donc, il y a vraiment pas beaucoup de solidarité entre l'aile parlementaire et les membres.
Ouais.
Pour ce qui est de la CAQ, c'est vraiment intéressant cette donnée-là. Puis j'espère que François Legault va aller lire la biographie de Daniel Johnson s'il a le sens de l'histoire. Parce que là, vraiment, c'est le moment d'agir pour la CAQ. C'est pas un hasard, ces statistiques-là. C'est pas un détail. C'est quelque chose qui est fondé, qui suit une tendance. Puis François Legault a une responsabilité face à l'histoire du Québec.
Julia?
Oui, moi, je pense que du côté de Québec solidaire, même s'ils sont ouvertement souverainistes, je pense que ce qu'ils montrent dans leur plateforme électorale, c'est peut-être des valeurs un peu différentes. Ça semble pas être leur priorité. Puis, disons qu'ils ont des valeurs très, très sociales, mais pour moi, c'est pas ce qui est de l'avant. C'est toujours important quand vient le temps des élections de se positionner par rapport à cet enjeu. Ça fait quelques élections quand même que c'est pas l'enjeu déterminant. Puis avec la gestion de la pandémie, avec le pouvoir d'achat, je pense que ça va vraiment pas être déterminant une fois que les gens vont devoir aller aux urnes. Donc, effectivement, Québec solidaire se positionne toujours par rapport à ce sujet-là. Mais ensuite, là, on voit, par exemple, avec les nouveaux candidats autochtones, il y a d'autres valeurs qui priment pour Québec solidaire, mais évidemment, qui ont eu besoin de se positionner.
Quand même, autre nouvelle pour Québec solidaire qui a attiré mon attention dans ce sondage-là. 27% des gens qui ont répondu, qui sont convaincus que Gabriel Nadeau-Dubois sera un jour premier ministre. Pas pourrait faire un bon premier ministre. Ils sont convaincus qu'il va l'être éventuellement un jour. Est-ce que ça vous a surpris?
Mon Dieu, oui, quand même. Mais il faut dire que c'est quelqu'un qui est... Gabriel Nadeau-Dubois, il est fait pour la politique. c'est quelqu'un qui est né pour la politique. Il là, sait très, très bien parler. Une bête politique. Il est très charismatique. Puis on sent aussi, puis ça, c'est très, très populaire en politique en ce moment, qu'il est très connecté au peuple. Avant, il y avait une tendance du politicien très clairvoyant, qui était au-dessus du peuple. Maintenant, on a besoin d'une gestion horizontale. On a besoin que le chef de parti soit très connecté à sa base. Puis c'est ce que Gabriel Nadeau-Dubois fait excessivement bien. Après, bon, de le voir premier ministre de sitôt, soyons réalistes, je ne pense pas.
Rémi, de ton côté?
Moi non plus, en tout cas, certainement pas à court ou à moyen terme. Je pense que il faut regarder plutôt ce que les gens aiment chez Legault, ils ne le retrouvent pas chez Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois, il y a encore beaucoup de gens qui ont gardé le souvenir d'un garçon insolent. Évidemment, c'est pas mon opinion, mais c'est juste l'opinion générale d'un garçon insolent durant la crise étudiante. Et ça, je pense que ça le suit encore aujourd'hui, même si la barbe a poussé, même s'il vient d'avoir un enfant, même s'il est rendu en politique. Les gens, ils aiment le nouveau politicien qui est François Legault, papa, mon oncle un peu, puis ça passera pas pour Nadeau-Dubois à court ou à moyen terme.
Ouais, pourtant, c'est vrai qu'il y a une opposition vraiment complète. Là, tu fais bien de le souligner parce que, comme tu dis d'un côté, ben, François Legault et se mononguise un peu, je vais utiliser ce nouveau terme que je viens d'inventer là, de plus en plus. De l'autre côté, t'as Gabriel Nadeau-Dubois, tu sais, qui représente cette jeunesse politique-là, mais de moins en moins, hein, il prend des plis, des bons comme des mauvais là, au pouvoir, ce qui arrive quand on est longtemps en politique. Dernier détail là, que je voulais voir avec vous là, dans ces intentions de vote-là, là, le Parti libéral, on l'a dit plus tôt, sont à 18% d'intention de vote, n'ont pas gagné vraiment de points de pourcentage. Il y a un point de pourcentage qui s'est gagné dans les autres partis. Et là, on a de la misère à préciser c'est quelles intentions précisément, mais il faut le rappeler, il y a deux autres partis officiellement là, fédéralistes qui viennent courtiser le vote anglophone. Pensez-vous que Dominique Anglade, là, malgré toutes ses promesses, malgré un regain d'énergie de campagne, va perdre des votes au profit de ces deux nouveaux partis-là, Julia?
Ça va mal hein, pour Dominique Anglade. Ce que le Parti libéral a décidé de faire, puis il n'avait pas vraiment le choix, c'est de se positionner par rapport à la CAQ pour aller chercher plus d'électeurs. Donc, a joué très fort sur les enjeux de protection de la langue, ce qui n'a évidemment pas réjoui leurs électeurs anglophones et qui a laissé la porte ouverte pour deux nouveaux partis qui parlent directement à ces anglophones-là. Bon, maintenant, important de relativiser deux choses. Premièrement, ce serait assez étonnant que des anglophones qui votent libéral depuis comme 30 ans décide de changer d'avis du jour au lendemain parce qu'il y a Ballarama Ulnis dans leur comté.
Ouais.
Souvent, ceux qui votent libéral, c'est des gens qui aiment la stabilité. C'est pas ceux qui sont portés vers les partis, disons, plus marginaux. Deuxième chose, le vote anglophone est excessivement concentré. Il y a 125 circonscriptions. Sur ces 125 circonscriptions, il y en a peut-être 10 qui peuvent être concernées. Sur ces 10-là, il y a les châteaux forts libéraux. Donc, est-ce que ces deux partis-là vont être déterminants? Je pense pas. Mais est-ce que c'est une pierre à l'édifice du déclin de popularité du Parti libéral? Absolument.
Penses-tu que ça nuit, Rémi, toi, l'espèce de balai auquel ça a donné le Dominique Anglade, au départ, voulu se montrer très, au début de l'année, là, puis même vers la fin de l'année passée, voulait prendre une tendance un peu nationaliste, voulait relever de Bourassa, parlait de ça super ouvertement, et là, projet de loi 96, tout d'un coup, opposition complète, va à la manifestation, est-ce que ce balai-là, tu penses, pourrait peut-être nuire à son image auprès de l'électorat anglophone?
Mais absolument. Puis moi, je rappellerai quand même un élément historique. Là. En 1974, Robert Bourassa, qui était le chef du Parti libéral, était au début d'un mandat extrêmement fort à Québec. Puis il a décidé qu'il allait mettre KO, le nouveau parti qui était le Parti québécois, qui prenait un peu du galon, et qu'il allait tourner la page sur les enjeux de langue. Donc, il a adopté une loi qui s'appelle la loi 22. Puis cette loi-là, elle a fait du français la loi de l'administration des services du travail. Puis les anglophones ont détesté cette initiative du Parti libéral. Puis aux élections de 76, ils ont signalé leur mécontentement en votant pour l'Union nationale de Rodrigue Biron. Ça me fait vraiment penser à Éric Duhaime en ce moment, qui est à 22% chez les anglophones. Donc, est-ce que les libéraux vont perdre des circonscriptions? J'en doute, mais ils vont perdre énormément de votes aux prochaines élections parce que les anglophones détestent quand le Parti libéral défend les francophones. C'est historiquement avéré comme fait.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que Éric Duhaime a courtisé un électorat qui était vraiment mécontent. Là. On pourrait dire un électorat de mécontentement. T'sais, des gens qui sont là parce qu'ils sont frustrés de la manière dont c'est géré auprès d'autres partis, particulièrement de la manière dont on s'est géré la pandémie du côté du gouvernement. Puis ça transcende, là, si on veut, la langue un peu, là, l'insatisfaction face aux mesures sanitaires, voire, tu sais, il y a une partie de son électorat qui est complotiste, là, ne nous cachons pas. Je pense que ça transcende la langue, là, puis ça pourrait se refléter quand même des intentions de vote.
Oui, absolument. Moi, je rappelle quand même qu'en 1976, le seul parti qui a bénéficié de la séparation du vote, c'est le Parti québécois. Donc, encore une fois, cette année, ça risque d'être la CAQ qui va profiter de la division du vote anglophone.
Vas-y, Julia.
Je pense que du M, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de partisans anti-système qui n'iront pas voter. Puis il faut aussi se souvenir que peut-être que les gens, maintenant que les mesures sanitaires sont assouplies, vont peut-être perdre un peu d'intérêt pour ce genre d'enjeu-là. Je pense pas que la hargne est aussi forte qu'au début, puis les plus hargneux vont peut-être pas se rendre aux urnes.
Un autre sujet que je voulais aborder avec vous qui est tombé hier, le gala artiste qui sera plus présenté, là, c'est terminé pour ce gala-là. Et plus largement, ça me porte à réfléchir sur les autres galas, les autres mecs de la télé, les autres messes qu'on avait habituellement là, pour célébrer comme ça, remettre des prix autres. Ça a perdu beaucoup de popularité, là, je pense aux Golden Globes, je pense aux Oscars, ces grands événements, grands rendez-vous qui perdent vraiment de manière fulgurante là, leur popularité. Julia, est-ce que tu penses que c'est une espèce de symptôme, si on veut, d'une écœurantite aiguë, je vais encore utiliser un terme, un élogiste comme ça, là, des gens face à des remises de prix comme ça? C'est un modèle qui est dépassé?
Mm-hmm. Il y a tellement eu de signes précurseurs à la mort des galas à venir, tellement de scandales dans les dernières années qui nous montrent que ce genre d'événement-là n'est pas vraiment en phase avec les valeurs actuelles. Je pense au César avec Roman Polanski qui gagne un César alors qu'il y a mille allégations d'inconduite sexuelle à son égard. Il y a eu le hashtag Oscars so white, les Oscars sont si blancs. Ça représente pas la diversité, ça représente même plus l'art. Hein. On a l'impression que c'est quelque chose qui ressemble plus à un spectacle, à du divertissement. Puis dans le cas des Oscars, par exemple, c'est comme si le cinéma passait en deuxième. Dans le cas du gala artiste, le nombre d'auditeurs qui a sauté de 2019 à 2021, c'est assez fou. C'est 552 000 auditeurs qui ne sont plus au rendez-vous.
Ouais, c'est massif.
C'est pas mal la même chose. C'est très, très, très gros. C'est les codes d'écoute d'énormément d'émissions. Il y a un problème pour moi de fond et de forme. Sur le fond, la formule a juste pas évolué depuis le début des galas. Et pourtant, le monde artistique et la société a beaucoup évolué. C'est souvent aseptisé, c'est souvent long. Ça représente pas vraiment le foisonnement créatif de ces industries-là. Puis sur le fond, souvent, je pense qu'on peut être honnête, là, on sait qui va gagner d'avance. C'est Guylaine Tremblay, c'est Martin Matt. Puis c'est on a l'impression de finalement récompenser les plus connus puis les productions les mieux financées. Donc, on n'est plus sûr des valeurs que célèbre ce genre de gala. Puis c'est souvent un peu déconnecté et un peu malaisant.
Rémi, toi, est-ce que c'est chose du passé? Tu penses ce genre de gala-là où ça va revenir, une nouvelle forme? Qu'est-ce que tu vois, toi, là-dessus?
Ben, le féru d'histoire en moi est retourné dans les archives. Hier, je suis allé lire la presse de 1986, la première année où le gala artiste est apparu sur les ondes.
Puis j'adore quand tu fais tes devoirs faire comme ça. J'adore ça. Je veux que tu continues à faire ça tout l'été. Hein. C'est important, Rémi. J'aime ça. Vas-y, continue.
Oui, monsieur le professeur. Donc, en fait, en 1986, la mission du gala artiste, c'était de créer une proximité entre le public téléspectateur et les artistes. Une proximité qui, évidemment, à l'époque, on se disait prendrait forme l'instant d'une soirée par année. À l'époque, on avait encore le sens de la mesure, mais là, le monde a changé. 36 ans plus tard, les artistes mettent des photos de leur accouchement sur Instagram, de leurs blessures, parfois en direct, partagent leurs péripéties les plus passagères, voire insignifiantes, frustration à l'épicerie, malaise dans le métro, nausée après une soirée arrosée. Puis à la nausée, on sait qu'elle s'en vient parce que la soirée de la veille a été documentée par Story sur Facebook, Story sur Instagram, Jig sur TikTok. Donc, on voit la nausée arriver. On compte les shooters. Là. Il va être malade, notre Joey Scarpellino. Donc, TVA retire des ondes une émission dont les codes d'écoute étaient à la baisse, mais TVA peut vraiment se dire une mission accomplie. Parce qu'en 2022, on n'a jamais été aussi proche de nos artistes. On est dans le bol de céréales de nos artistes. On est sous la couette avec nos artistes. Nous sommes nos artistes.
Tu vois, j'avais jamais vu l'angle réseaux sociaux comme ça là-dessus. Dans tous les cas, là, c'est vrai que ça démontre. Moi, je vais vous faire un mea culpa. Je n'écoute pas ce genre d'événement-là dans la vie en général. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est un fan des galas comme ça et autres. Vraiment, moi, ça a jamais piqué mon intérêt plus qu'il faut. Puis comme tu le dis, tout ce que je veux habituellement regarder, On le voit, là, tu sais, je peux le voir sur les réseaux sociaux, je peux aller le chercher partout. Donc, vraiment, chapeau quand même, tu le dis à TVA, chapeau d'avoir créé ces événements-là. Ça nous a amené où on est aujourd'hui, mais ça pouvait peut-être plus capturer, là, aujourd'hui, comme on est, l'intérêt de tous et tout un chacun. Alors, écoute, on va suivre ça. On va suivre aussi en ce moment, hein, il y a François Legault qui est à la baie, qui prend la parole là, devant ces résidences qui ont été évacuées là, pour des éboulements de terrain, des glissements de terrain, qui sont d'ailleurs, on dit, il y en a un autre qui est imminent. On va continuer de suivre ça là, aujourd'hui, puis on y reviendra là, assurément demain. Merci à vous deux. On revient demain ensemble.
À demain.
Merci. À demain.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877 cube radio.
J'en parlais il y a quelques instants avec mes collègues, François Legault, qui est en ce moment à l'abbé, qui fait une conférence de presse, répond aux questions des journalistes, tout ça devant, en arrière de lui, là, on peut voir des maisons qui ont été évacuées, on se rappellera, glissement de terrain qui a eu lieu à Saguenay, pas de blessés, pas de morts, heureusement, mais il y a eu des centaines de personnes, de résidents qui ont dû être évacués, et là, il a annoncé, entre autres, que 5 maisons là-dedans qui vont devoir être malheureusement démolis, mais les résidents de 67 autres maisons évacuées vont pouvoir rentrer chez eux, c'est confirmé. De ce côté-là, va falloir suivre aussi la situation parce que on avait averti du côté des autorités qu'un autre glissement de terrain est imminent. Donc, va falloir voir, là, faut comprendre. J'imagine que les experts ont identifié l'endroit où ça allait tomber et que c'est pour ça qu'on doit démolir des maisons. Donc, on va suivre la situation là, tout au long de la journée à nos autres émissions. L'autre sujet qui retient l'attention cette semaine, évidemment, c'est les passeports. Hein. On a vu les files d'attente devant les bureaux de passeport. Nos collègues Mario Dumont qui était là, Philippe-Vincent Foisier également, qui ont été coincés, pris la nuit dehors, même pour M. Dumont. Là. Vraiment, c'était toute une histoire, toute une saga qui se poursuit. Sauf que ce qu'on apprend, c'est que ben, le mois dernier, entre autres, mais le syndicat des employés de Passeport Canada dénonçait là, le manque de prévoyance du gouvernement, dénonçait le fait de les laisser à eux-mêmes pour gérer la crise actuelle. Puis un mois plus tard, ou presque, ça y est, c'est chose faite, c'est la crise devant les centres de services. Yvon Barrière est vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour le Québec. Monsieur Barrière, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour. Écoutez, premièrement, là, comme je le dis, votre président national là, qui annonçait, là, M. Kevin King, il y a un mois, là, ça date du 27 mai 2022, j'ai votre communiqué de presse entre les mains, là, disait que le manque de prévoyance de l'employeur allait créer un milieu de travail hostile. En ce moment, comment ça se passe pour vous syndiquer sur le terrain? Là?
Bien, vous avez tout à fait raison. Puis, son communiqué de presse est arrivé en mai. Mais dès l'automne 2021, le syndicat quand même levait le drapeau rouge pour signifier au ministre, à la ministre, il faut, parce que vous savez que durant l'année 2020 et 2021, les agents de passeport avaient un peu moins de travail. Donc, ils ont décidé de les prêter dans d'autres programmes de Service Canada pour pouvoir gérer les programmes gouvernementaux en lien avec la pandémie. Donc, dès l'automne, on a dit, mais il faut les rapatrier, surtout, il faut effectuer de l'embauche, parce que présentement au Canada, il manque entre 400 et 500 agents de passeport. Donc, on se retrouve avec une pénurie de personnel actuellement.
Ouais,
donc, je vous le dis, là, dès 2021, on a mis de la pression en disant, veuillez faire des intérims, veuillez faire des concours, veuillez faire de la dotation, et ils n'ont absolument rien fait, possiblement peut-être par économie d'argent de bout de chandelle. Mais on se retrouve dans cette situation-là. S'il avait rapatrié tel qu'on avait demandé l'automne passé, le personnel de Passeport Canada, les agents de passeport, s'il avait fait et effectué de la dotation, on n'en serait pas loin
ouais.
aujourd'hui.
Je reviens à ma question un peu, parce que ça je le comprends bien, là, vous avez tiré l'alarme là-dessus, ça n'a pas bougé, ça n'a pas été fait, mais en ce moment, là, sur le terrain, là, directement, on a les échos là, de tout le monde là, dans les fils, évidemment, qui sont exaspérés, les citoyens qui veulent avoir leur passeport, mais c'est une situation qui doit être énormément stressante pour vos syndiqués, je me trompe?
Mais je vous comprends. D'abord, là, je sympathise avec les gens qui font les files d'attente. Notre personnel, nos membres trouvent ça tout à fait inacceptable. Ils sont un peu la victime. En fait, ils sont un peu le messager là, d'une incompétence ministérielle et ils trouvent ça difficile. Mais ils trouvent ça difficile. Puis surtout, souvent, on les tague, de dire ah, mais ils travaillent du 8 à 4. Mais c'est faux, hein, actuellement. Je prends, par exemple, le complexe Guy Favreau la semaine, vendredi dernier. La majorité du personnel a fini à 2h30 du matin. Mm. Ils ont même, eux autres, décidé d'ouvrir les bureaux eux-mêmes le samedi matin pour pouvoir imprimer les passeports et le remettre de façon urgente à la clientèle qui en avait besoin pour partir le samedi ou le dimanche. Ouais. Je vous le dis présentement, là, notre personnel, depuis quelques semaines, là, depuis le début janvier, font beaucoup de temps supplémentaire. Ouais. Et à 4h30, lorsqu'on les voit quitter, il y en a qui disent « Ah bon, ils ont fini leur chiffre. » Mais c'est complètement faux. Hein?
C'est important.
Ils s'en vont chez eux. Ils s'en vont chez eux avec leur portable, leur cellulaire et ils continuent à travailler. Là. Hier, je parlais avec une membre du bureau de Saint-Laurent. Il était 23h. Elle me dit « Mais il me reste encore au moins là, une quinzaine de passeports. Donc, je n'ai pas fini avant 1h, 1h30 du matin. » Écoutez, là, c'est un feu roulant actuellement. Et on le sait que malheureusement, les gens arrivent, là, ils sont désabusés, ils sont en colère, mais si le ministère avait pris des devants comme il faut dès l'automne dernier, on ne vivrait pas cette crise actuellement.
Oui, parce que je trouve que c'est important de faire le point là, que vous le faites en ce moment. On a une image qui est perpétuée par toutes sortes de stéréotypes là, des fonctionnaires qui font, comme vous le dites, le 8 à 4, qui rentrent chez eux, qui s'en foutent, qui sont syndiqués, qui veulent pas du tout être flexibles sur leurs mesures. Je suis content que vous mettiez là, un bémol à tout ça en expliquant quand même qu'en ce moment, là ils travaillent d'arrache-pied pour que ce soit fait. Et malgré tout, il y a de la colère qui se déverse là, parfois injustement, des citoyens qui sont là puis qui attendent. Est-ce que vous avez des employés qui ont été menacés, qui ont reçu des insultes? Est-ce que la violence verbale se ressent directement dans les échos que vous recevez des bureaux?
Bien malheureusement, vous avez dans votre question répondu à la réponse définitivement. Il y a, dans les bureaux là, de Laval, il y en a qui se sont fait insulter, toutes sortes de noms. Il y a même un des employés qui aurait été un client aurait craché sur la personne. Donc on vit des situations hors de l'ordinaire. On trouve ça malheureux. Puis on ose espérer effectivement que la santé et la sécurité de nos membres ne seront pas affectées par cette situation-là. De un, la santé et sécurité, la santé principalement présentement parce que les gens sont fatigués. On peut le comparer avec les infirmières là, dans les pics de pandémie. Écoutez, donc depuis janvier, là, qui font là, des journées de 10, 11 et 12 heures, des 6 et des 7 journées semaine. Donc, c'est lourd parce que eux, ils savent qu'ils font le travail, mais en amont, le ministère n'a pas fait son travail. Puis de plus, lorsqu'on regarde le site web, il y a encore quelques semaines, on parlait de 20 jours d'attente. Ils sont en train, malheureusement, de traiter les demandes du 23 mars, imaginez-vous donc. Puis la ministre, quand elle parle de billets ou puis d'embauche actuellement, c'est un peu de la poudre aux yeux. Je vous dirais pas qu'elle ment actuellement, mais elle tente tout autant que faire se peut de se défendre dans l'actuelle crise, parce que le nouveau personnel qui va rentrer, on ose espérer que ça va être des agents de passeport, parce qu'il y a des agents de service à clientèle qui font une entrée de données, mais ceux qui estampillent puis qui confirment, c'est bel et bien des agents de passeport. Ils doivent donc, et ils sont imputables dans cette mécanique de sécurité. Puis les nouveaux vont avoir un 15 semaines de formation. Donc, je vous le dis, on n'est pas sorti du bois présentement encore.
Oui, c'est si je résume vos propos. Donc, c'est les mesures, là, oui, là, que Mme Gold là, réagit, Mme la ministre responsable de ce dossier-là, là, Karina Gold, qui vient annoncer des mesures justement pour traiter là, le dossier sur le terrain. Mais quand je vous entends, je comprends un peu que c'est un peu trop tard, trop tard, puis surtout c'est des choses qui avaient été demandées. Il y a un bout, vous l'avez dit, on n'est pas sorti du bois, M. Barrière. Je dois vous poser la question qui tue dans ce cas-ci. On en a pour combien de temps dans cette situation-là? Selon vos évaluations du milieu, on n'est pas sorti du bois, mais c'est quand qu'on sort du bois?
Bien, écoutez, je vais vous répondre avec... malheureusement, je me trouve négatif ce matin, mais vous savez, là, qu'en juillet cette année, ça va faire 10 ans que le passeport 10 ans est sorti, donc il va y avoir une autre flux de demandes qui vont se faire là, dès le mois de juillet puis le mois d'août. Écoutez, j'ose espérer avec l'embauche, j'ose espérer avec des des demandes syndicales de réembaucher les retraités, d'aller chercher ceux qui ont déjà eu la formation puis de faire une formation d'appoint. J'ose croire qu'au début de l'automne, septembre, octobre, on devrait finalement là enfin revenir à la normale et pouvoir là ramener les délais requis dans un 15 à 20 jours, j'ose espérer.
À l'automne. Mon Dieu, ouais. Vous trouvez négatif, je vous trouve réaliste ce matin, mais je suis content que vous répondiez à la question, mais avec honnêteté. Mais moi, là, j'entends ça, octobre, l'automne, avant qu'on ait une récupération de situation normale du côté des passeports. Je pense qu'il y en a qui vont devoir s'armer de patience pour partir en vacances. Puis ceux qui pensaient attendre la fin de la crise, là, la fin de l'été, pour pouvoir partir en vacances, se dire « Ah, ça va passer, ça va passer ». Ben, on a peut-être encore là, à prendre pour le rhume, ça va être long, longtemps. Monsieur Barrière, vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour le Québec, merci beaucoup d'avoir été là.
Je vous en prie.
Au revoir. Alors, ouais, ça va être long, c'est des réponses difficiles à entendre, puis comme le disait Monsieur Barrière, c'est pas de la faute nécessairement là, à l'employé de Service Canada que vous allez retrouver derrière la vitre, derrière le comptoir, dans le bureau, qui va nécessairement responsable, qui est responsable de tout ce qui se passe, de ce bordel administratif-là. Il y a des gens qui prennent des décisions en haut, qui n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment. Puis surtout, si on en écoute le syndicat, il va falloir qu'il y ait des réponses aux questions du côté du ministère. Parce qu'est-ce que c'est vrai qu'on a sonné l'alarme en 2021 et qu'on n'a pas réagi à temps? Si oui, c'est choquant de voir qu'une lenteur aussi épouvantable de réaction du côté du ministère. On va suivre la situation de près toute la semaine et tout l'été, parce que ça risque de durer longtemps, comme a dit M. Barrière. Un gros merci à vous d'avoir été là, chers auditeurs. Merci à tout le monde qui est là. Charlie derrière la console, Florence également à la recherche. Merci à tous. On se retrouve demain.
Cube Radio.